Sa folle entreprise d'une histoire de la sexualité, c'est une manière d'expérimenter le gouvernement de soi.
Quand on fait l'amour, eh bien, on met en jeu des relations de pouvoir. Ne pas tenir compte de ces relations de pouvoir, les ignorer, les laisser jouer à l'état sauvage ou les laisser, au contraire, confisquer par un pouvoir étatique ou un pouvoir de classe, c'est ça, je crois, qu'il faut essayer d'éviter. En tout cas, c'est contre cela qu'il faut polémiquer.
Prénom ?
Michel.
Nom ?
Foucault.
Date de naissance ?
Poitiers, 1926, d'une famille de chirurgiens. Le Poitou exercera une puissance bienfaisante sur lui puisqu'il y reviendra régulièrement.
Ses études ?
École normale supérieure, 1946. Agrégation de philosophie, 1951. Il tirera comme sujet de la grande leçon la sexualité. Cette question l'a longtemps taraudé. Ses lectures psychanalytiques l'ont sans doute convaincu qu'une saine morale imposait de ne pas céder à la vérité de son désir.
Un compagnon ?
Durablement, de 1963 à sa mort, Daniel Defer, qui fondera ensuite Aide.
Parcours professionnel ?
Longtemps en poste à l'étranger, avec une expérience malheureuse en Pologne communiste et d'autres plus fécondes, Uppsala, Hambourg, Tunis, où il inaugure une stylisation de sa vie, sportive, bronzée, un peu ascétique.
Et en France ?
Un couronnement en 1970 avec l'élection au Collège de France. Y enseigne-t-il la philosophie, l'histoire ? L'histoire, c'est prodigieusement amusant, dit-il, on est moins seul. Ses auditeurs sont de toute façon extrêmement nombreux. Il leur annonce une histoire de la sexualité qui va connaître beaucoup de rebonds.
Il y aura finalement 3 volumes ?
Le premier, très tôt, la volonté de savoir. Ensuite, un volume en 2 tomes, le souci de soi, l'usage des plaisirs. Et très tardivement, il y a peu d'années, les aveux de la chair consacrés au mode de vie du christianisme ancien.
Sa mort ?
Juin 1984. Il n'avait demandé ni reçu aucun diagnostic. Sa seule question était de savoir combien de temps de travail il lui restait. Le communiqué médical a néanmoins cité nombre de symptômes du sida sans prononcer le mot.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Et versé au nouveau dossier que nous ouvrons aujourd'hui, Foucault et l'histoire de la sexualité. Pourquoi Pierre Nora, son éditeur chez Gallimard, a-t-il déclaré qu'à la base de ce travail qui occupa Foucault une douzaine d'années, il y avait une question personnelle à régler, celle de son homosexualité face à un interdit posé par une société dominante nourrie de christianisme ? En réalité, Foucault détestait l'explication par la biographie personnelle. Il préférait raisonner plus large et se demander pourquoi, d'un côté, les Occidentaux avaient constitué un sur-savoir écrasant sur la sexualité et pourquoi, de l'autre, ils n'apprenaient pas à se donner du plaisir et à en donner aux autres. Néanmoins, il est vrai qu'avant de se poser ce genre de questions dans le calme et la sérénité que permet la diversité des expériences, Foucault n'avait pas eu au départ un rapport apaisé à son propre corps qu'il avait fini par sculpter. C'était un monstre de travail, mais pas seulement un homme de bureau.
Tous les matins, même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir. Visage maigre, épaules voûtées, regard myope. Plus de cheveux, vraiment pas beau. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener. À travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau, croupir. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné.
Comment est-on regardé ? La connaissance ne s'acquiert que dans des rapports de force et les rapports de pouvoir passent à l'intérieur du corps. Quand il commence, dans les années 1970, cette folle entreprise d'histoire de la sexualité, Foucault est attendu sur le terrain auquel il a familiarisé ses lecteurs. Qu'est-ce qui a été permis ? Qu'est-ce qui a été défendu ? Et quant au champ chronologique, l'étude devrait se dérouler à l'époque moderne et contemporaine entre médecins et ecclésiastiques. Un exemple qui devrait servir de morceau de bravoure, avec peut-être un volume entier consacré au sujet, la masturbation.
Alors, chez les filles, en général, la sanction, enfin, la sanction non pas de tout acte de masturbation, bien sûr, mais enfin, lorsque l'on considérait qu'une petite fille, ou même encore une jeune fille, était atteinte d'une véritable maladie masturbatoire, eh bien, le dernier recours, mais qui est recommandé régulièrement par les médecins, c'est l'ablation du clitoris. Alors, pour les garçons, c'était un peu différent. On leur mettait tout un tas d'appareils extraordinairement compliqués, qui n'étaient pas des castrations proprement dites, mais qui les empêchaient de toucher à leurs organes génitaux. Mais il y avait un certain nombre d'opérations qui ont été suggérées, des brûlures, des cautérisations, ou encore des choses comme ça. C'est Larrey, le chirurgien de Napoléon, qui avait mis au point cette recette, qui a été recommandée ensuite... pendant presque toute la première moitié du 19e siècle. Ça consistait à prendre une solution de ce qu'ils appelaient le sous-carbonate de soude, et puis de l'injecter avec une seringue dans le canal de l'urètre, après avoir fait une ligature à la racine de la verge pour que la solution n'entre pas dans la vessie et par conséquent ne laisse pas le tissu de la vessie, et le liquide imprégnait ainsi très, très fortement le canal de l'urètre, avec les lésions que vous pouvez imaginer, et comme disaient les médecins, pendant quelques semaines au moins, le garçon n'avait plus envie de se masturber.
Il n'y a pas une voix qui s'est élevée? Il n'y a pas un médecin qui, à l'époque, a dit...
Quelques-uns ont dit, oh, on exagère un peu, aller jusqu'à la mort, non, peut-être pas, non, cela, la masturbation ne peut pas conduire directement au tombeau, mais enfin, aucun n'a dit, écoutez, on le fait tous, on l'a tous fait, on se porte très bien... Allez-y, continuez. Et croyez-vous qu'on l'a déjà dit maintenant? Mais je voudrais qu'on me montre le livre de sciences naturelles, ou simplement un livre de médecine, dans lequel il serait dit, ça n'a jamais fait de mal à personne, faites-le autant que vous voudrez, et personne ne vous embêtera pour ça.
Eh bien, quitte à vous décevoir, le volume sur la masturbation ne paraîtra pas. D'ailleurs, aucun... des 6 volumes annoncés lors du début de publication, en décembre 1976, ne paraîtra dans la forme prévue. Foucault se débat contre l'attente de son public. Au Collège de France, il le trouve trop nombreux. Aussi va-t-il déplacer son cours à un horaire dissuasif, 9h30. Quant aux lecteurs, plaisante-t-il, il faudrait ne leur donner qu'un seul titre avec le nom de l'auteur et après ils s'habituent. Alors ils sont plus à la recherche de la transformation de la connaissance. Décidément non. S'il fait ce qui coule de source, Foucault ne va trouver aucun plaisir. Il va même s'ennuyer à mourir. Cette histoire de la sexualité ne sera pas celle de tous les refus du sexe. Il cherche à mettre au point une autre économie des concepts plus neuves.
Pourquoi a-t-on parlé de la sexualité? Qu'en a-t-on dit? Quels étaient les effets de pouvoir induits par ce qu'on en disait? Quel lien entre ces discours, ces effets de pouvoir et les plaisirs qui se trouvaient investis par eux? Quel savoir se formait à partir de là? Bref, il s'agit de déterminer dans son fonctionnement et dans ses raisons d'être le régime de pouvoir, savoir, plaisir qui soutient chez nous le discours sur la sexualité humaine. De là, le fait que le point essentiel, en première instance du moins, n'est pas tellement de savoir si au sexe on dit oui ou non, si on formule des interdits ou des permissions, si on affirme son importance ou si on nie ses effets, si on châtie ou non les mots dont on se sert pour le désigner, mais de prendre en considération le fait qu'on en parle. Ceux qui en parlent, les lieux et points de vue d'où on en parle, les institutions qui incitent à en parler, qui emmagasinent et diffusent ce qu'on en dit, bref, le fait discursif global. La mise en discours du sexe. Je ne parle pas de l'obligation d'avouer les infractions aux lois du sexe, comme l'exigeait la pénitence traditionnelle, mais de la tâche quasi infinie de dire, de se dire à soi-même et de dire à un autre, aussi souvent que possible, tout ce qui peut concerner le jeu des plaisirs. Sensations et pensées innombrables qui, à travers l'âme et le corps, ont quelque affinité avec le sexe.
Ainsi parlait Foucault dans le premier volume introductif de l'histoire de la sexualité, La volonté de savoir, 1976. Bon, le grand public est un peu déçu de ne trouver aucune description précise de pratiques sexuelles. Foucault, lui, guette les premières réactions du milieu intellectuel. Elles sont froides, parfois hostiles, mais beaucoup plus passionnées dans le milieu gay et lesbien. Peut-être s'invente-t-il là, demande-t-il, des formes inédites, non pas seulement de contestation, mais de vie. Alors il continue à travailler en silence. Mais, en 1978, bifurcation qui étonne, il consacre son cours du Collège de France à la gouvernementalité. Certes, la sexualité a à voir avec le gouvernement de soi, mais dans ce cours, il s'agit d'autre chose, des nouvelles pratiques néolibérales qui vont marquer la révolution conservatrice qui commence.
Michel Foucault envisagera même de démissionner pour vivre de ses droits d'auteur et de ses séminaires à Berkeley. Pensez-vous que son salaire soit le premier motif qui le pousse à aller de plus en plus aux États-Unis, Monsieur Lebrun?
Et croyez-vous que je vais vous répondre oui? Ben non, s'il va aux États-Unis, c'est parce que Berkeley lui offre un enseignement régulier, mais s'il aime s'y attarder, c'est à cause des lieux. À New York, la ville de toutes les villes, et surtout en Californie, où il s'intéresse à toutes les petites communautés qui se forment, zen, végétariennes, gays, lesbiennes. Foucault a toujours eu un goût pour toutes les expériences. L'alcool, avec son premier compagnon Jean Baraquet, le hash en Tunisie, le LSD, dans la vallée de la mort, non loin du Zabriskie Point d'Antonioni, en compagnie de Simone Wed, qui a consacré un livre à cette journée très particulière qui paraît en janvier en français.
On est bien ici. C'est vachement calme.
T'as une bonne occasion de le faire. Y a personne ici. C'est un désert, y a rien.
Mais c'est quelqu'un.
Qui? Un fantôme? Celui d'un pionnier?
Foucault sourit et balaya le ciel du regard. Le ciel a explosé et les étoiles me pleuvent dessus. Je sais que ce n'est pas vrai, mais c'est la vérité. Pensez-vous que l'humanité tout entière puisse prendre ce mélange et passer par quelque chose de semblable à ce que nous expérimentons ce soir ? Demandai-je. « J'aimerais que ce soit possible, » répondit Foucault avec nostalgie. « Êtes-vous certain que d'autres, par le passé, n'ont pas fait d'expérience analogue à la nôtre ce soir ?»« Après tout, John Allegro a montré qu'il y avait une lignée continue de sociétés, des Sumériens en passant par les Esséniens jusqu'au temps moderne qui prenaient de l'Amanita muscaria. » Un autre genre d'élixir. Foucault m'assura de nouveau que nous étions différents et que personne n'avait pu faire ce genre d'expérience avant nous. Je comprends enfin la signification d'au-dessous du volcan de Lori, déclara Foucault. Le mescal du consul est une drogue qui filtre sa perception à la manière d'une substance hallucinogène. La seule expérience personnelle à laquelle je peux comparer cela, c'est faire l'amour avec un inconnu. Le contact avec un corps inconnu procure une expérience de la vérité analogue à celle que je suis en train de faire.
Il paraît même qu'on n'a pas d'éteignage de Foucault lui-même, donc j'ai dit « il paraît », mais...
La philosophe Arianna Sforzini.
De ce qu'on a raconté, ça a été pour lui un moment tout à fait exaltant et même de bascule dans son travail, parce qu'il aurait s'arrêté là, qu'il aurait décidé, par exemple, de changer du premier projet de l'histoire de la sexualité au deuxième, donc ce qui donnera après, dans les années 80, l'usage des plaisirs et les soucis de soi. Mais... C'est sûr que Foucault revendique même un usage, la nécessité peut-être on pourrait dire d'un art d'existence qui joue avec l'usage des drogues, justement. Et il est convaincu que je pense qu'il était très attiré par les drogues et qu'il considérait qu'effectivement toute loi prohibitionniste n'avait aucun sens par rapport aux drogues, qu'il fallait au contraire savoir bien les utiliser, ce que dans la fin de sa vie il appellera un art de vivre.
France Inter, intelligence, service.
Jean Lebrun.
Quand Foucault annonce qu'il part en voyage, aux États-Unis ou ailleurs, c'est une invitation tacite aux jeunes gens qui l'entourent à venir occuper son appartement. Il a choisi à dessein un appartement très clair. Pour Foucault, l'obscurité, c'est une forme de despotisme. Il préfère avancer à découvert, quitte, dit-il, à cafouiller. Et dans l'appartement, en effet, il s'est produit pas mal de cafouillages. Que raconte drôlement le journaliste Mathieu Lindon dans « Ce qu'aimer veut dire ». Mais d'abord, la philosophe Arianna Sforzini, qui nous guide depuis l'ouverture de nos dossiers Foucault. Elle n'a pas connu directement cette haute époque.
C'est un appartement où on a, enfin, du moins la salle de réception, où on a effectivement l'impression de voir... c'est une salle d'académicien, c'est une salle de professeur. C'est une salle qui est recouverte de livres de partout et c'est certainement un appartement, mais ça va. Ce qui raconte les biographes, c'est qu'on peut lire dans le témoignage, c'est un appartement qui a beaucoup compté comme lieu de socialité pour Michel Foucault. D'ailleurs, Daniel Defer raconte, Michel Foucault était très méthodique, et un bourreau de travail, enfin, incapable de s'imposer des rythmes de travail absolument impensables pour des personnes normales. Mais voilà, donc il travaillait tous les jours, il allait en bibliothèque, mais puis il y avait une deuxième partie de la journée qui était celle justement qui s'ouvrait après, qui était faite des relations, des rencontres, de socialité, voilà, de ces contacts, et dans laquelle, clairement, son appartement devait jouer un rôle important, oui.
Lindon dit « j'aurais été moins ami avec lui s'il n'y avait pas eu ce superbe appartement
». Michel Foucault avait cette générosité de me prêter son appartement quand il n'était pas là, et souvent il n'était pas là, parce qu'il était invité dans des universités américaines, parce qu'il partait en vacances, et qu'on l'habitait à plusieurs, et que c'était un lieu magique où il se passait que des choses magiques, et qu'on entretenait aussi dans cet espoir, et que, d'une certaine manière, ce lieu, effectivement, peut représenter quelque chose d'une liberté de ces années-là. L'ambiance, oui, c'est-à-dire qu'on a pris beaucoup de LSD dans cet appartement, et donc le LSD permet une étude très approfondie de points de détail aussi, et une manière d'habiter le lieu qui lui est particulière.
L'écrivain Hervé Guibert, voisin et ami aussi, dont les écrits étaient toujours un peu indiscrets.
Michel Foucault, c'était quelqu'un qui avait une liberté dans sa vie, qui avait une audace. Et bon, il était tout sauf ce qu'on appelle dans le jargon homosexuel une closet queen, c'est-à-dire une tante de placard. Enfin, c'était quelqu'un qui sortait très rarement, mais quand il sortait avec quelques amis, quand il allait au cinéma, bon, il aimait embrasser ses amis. C'est quelqu'un aussi, on m'a reproché des choses sur le sadomasochisme, mais c'est bon, il a donné des interviews sur le sadomasochisme, bon, il ne les a pas données au Monde, au journal Le Monde, mais il a expliqué que pour lui, c'était une école de la délicatesse, de l'attention à l'autre, que c'était tout sauf quelque chose qui relevait de la brutalité. Enfin bon, je ne sais pas, c'était quelqu'un aussi, bon, je parle de son blouson de cuir pour sortir le samedi soir, mais aussi, bon, le dimanche matin, pour aller faire son marché, d'un seul coup, sans doute, il se disait, bon, mon manteau chinois... un col de fourrure, il est trop lourd. Finalement, c'est commode, ce blouson, c'est léger. Bon, je l'ai rencontré un matin, puisqu'on était voisins, dans une pâtisserie, avec son blouson. Et enfin, bon.
Pour comprendre aussi la position, si on peut dire, de retrait de Michel Foucault par rapport à... Enfin, des retraits, mais il faut préciser. Par rapport à l'homosexualité, au combat donc de revendication des personnes homosexuelles. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour lui, il n'a jamais été question de faire de l'homosexualité une identité dont il fallait s'approprier, qu'il fallait revendiquer. L'homosexualité n'était pas une identité secrète, la vérité secrète de sa sexualité ou de la sexualité, voilà, de n'importe qui. L'homosexualité, c'était un choix et un art d'existence. Et pour cela, il fallait, et c'est ce qu'il dit dans les peu d'entretiens où il revient sur la question, pour comprendre cet art d'existence, la notion d'amitié est très importante. C'est-à-dire que, c'est de manière un peu provocatrice sûrement, Michel Foucault laisse entendre dans certains de ses entretiens qu'au fond, ce ne sont pas tant les pratiques sexuelles homosexuelles qui effrayent la société bourgeoise, ce sont plutôt les relations d'amitié, justement. Enfin, c'est-à-dire tous ces ensembles d'affects, des plaisirs, des circulations, même d'amour, qui peuvent exister entre personnes du même sexe. Et c'est ça qui est le plus effrayant, parce que c'est le plus en rupture par rapport aux mœurs acceptées par la société. Et c'est donc sur ça qu'il faut jouer pour transformer les pratiques homosexuelles en quelque chose de résistant et de créateur par rapport aux normes sexuelles.
Mais alors les pratiques sexuelles de la communauté homosexuelle, il les envisage presque désexualisées.
Oui, c'est
alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Désérotiser?
Je ne sais pas si je dirais désérotiser, mais désexualiser, oui, on peut dire comme ça, au sens où ce qui l'intrigue, le fascine, par exemple, ben c'est très célèbre quand il revendique l'importance des pratiques SM, c'est justement le fait que C'est les corps diffus qui est au centre de ces pratiques. C'est pas seulement l'organe sexuel en tant que tel. On prend du plaisir à dans des nouvelles configurations et des nouvelles modalités des relations autour du corps en général. Et donc, ça permettait justement un peu de sortir de cette vision très, très stricte et très normative de la bonne sexualité qui serait la sexualité hétéronormative, hétérosexuelle, voilà, bourgeoise.
Et uniquement génitale.
Et uniquement génitale, tout à fait. C'est pour le polymorphisme, pour utiliser un terme de la psychanalyse. Voilà.
Mais quand ils pratiquent le SM, ils disent ce qui est intéressant, c'est l'observation sur le pouvoir que ça génère.
Aussi, mais parce que pour lui, après... Bon,
parce que l'un peut avoir le pouvoir et après ne plus l'avoir.
C'est ça, et c'est serré certainement à re-questionner aujourd'hui, hein, parce qu'on sait combien... Après, l'industrie du porno s'est réappropriée de tous ces imaginaires pour en faire des formes de nouveaux vecteurs de normalisation de la pratique sexuelle. Donc, voilà, je pense qu'il faudrait repenser tout cela. Mais justement, pour Foucault, c'était une manière de... Cette mise en scène très, très poussée de la relation de pouvoir, c'était en réalité une manière de la mettre en question.
De l'importance des nouvelles configurations, du dépassement des catégories hétéro, homo, lesbienne. Alors essayons d'échapper au type de relations qui nous sont proposées, dit Foucault, et dans l'espace vide, de créer d'autres possibilités. Il ne s'agit pas de ne plus lutter contre la répression sexuelle, mais d'essayer de se tenir sur une ligne d'innovation où le passé, dans sa diversité, offre bien des exemples inattendus.
Monsieur Lebrun, le deuxième volume de l'histoire de la sexualité se prépare. Il va constituer un énorme manuscrit sur les styles de vie.
Il va paraître en deux tomes, l'année de la mort de Foucault. L'usage des plaisirs, le souci de soi. Foucault a pu apporter à temps la plupart des corrections qu'il souhaitait. Alors ces deux livres témoignent à la fois d'un renversement des perspectives par rapport au projet qu'attendaient ses lecteurs, on est dans le positif, comme l'indiquent clairement les titres, mais un renversement chronologique a été opéré également. Foucault s'est en effet remis au grec et au latin, c'est en Grèce et à Rome qu'il a cherché les styles de vie qu'il veut mettre en avant. Il admire dans la culture antique la parésia, la notion de parler vrai, qui peut amener à des positions limites, mais on a vu qu'il les appréciait aussi. Alors, juste valeur, Arianna Sforzini.
Cette notion de la parésia, c'est-à-dire dire toute la vérité, même quand cette vérité peut avoir des conséquences très dangereuses pour celui qui la prononce. Donc, avoir le courage de tout dire. Et donc, dans son analyse de cette notion à la fois politique, à la fois théâtrale, eh bien, il tombe sur les cyniques et sur Diogène, par exemple, qui non seulement met en scène la vérité, mais justement... la met en scène d'une manière tellement littérale, tellement proche de ce que les philosophes disent, que cette vérité mise en scène est irréconnaissable et intolérable pour les philosophes. Les philosophes disent qu'il faut se dépouiller de tout ce qui est inessentiel, par exemple. Eh bien, les cyniques vivent la vraie pauvreté. Véritablement, ils se dépouillent de tout. Donc il essaye presque dans une ascèse continuelle, perpétuellement reprise, il essaye de voir de tout ce dont il peut se dépouiller encore. Il y a cette célèbre anecdote sur Diogène, je crois, qui est un cynique qui voit justement un chien qui boit de l'eau de par terre, qui a dans les mains donc une sorte de tasse et qui dit « bon, j'en ai pas besoin » et qui la jette, parce qu'effectivement il peut boire de par terre. Donc il y a toujours, on peut toujours être encore plus pauvre et plus dépouillé de l'inessentiel qu'on l'imaginait. C'est-à-dire que quand la vérité s'est fait corps, il y a quelque chose d'un passage à la limite qui devient souvent intolérable. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça, oui. Et au point que, voilà, c'est vrai que Foucault réfléchit au dire vrai, part de dire vrai, mais les cyniques, parfois, ne disent absolument rien, c'est son corps qui parle. justement, quand Diogène copule un public ou défèque un public, qu'est-ce qu'il dit ? Rien. Il fait quelque chose qui a une valeur, aujourd'hui presque on dirait des performances artistiques, mais qui vont avoir une valeur de rupture, clairement, des provocations, mais des provocations pas comme ça, pas pour les jeux de la provocation, au contraire. Ce que montre Foucault, c'est une provocation qui vous pousse les esprits à mettre en question les évidences acquises, enfin, tout ce qu'on pensait être vrai et qu'on n'a pas encore questionné.
On n'a pas fini d'être étonné par l'histoire de la sexualité. Voici qu'il faut parler d'une autre bifurcation encore. Dès 1977, Foucault s'est mis à la lecture des Pères de l'Église. Sa bibliothèque préférée ne va plus être la BN, mais la bibliothèque des Dominicains du Saulchoir. Et il s'apprête à défendre une position qu'a d'ailleurs déjà établie son ami Paul Venn, à Rome, au IIe et au IIIe siècle, les écoles qu'on pourrait dire austères gagnent du terrain. Et on va donc retrouver la même histoire, on parlait du chien de Diogène, on va parler maintenant de l'éléphant, la même histoire sur l'éléphant depuis les stoïciens jusqu'à Saint-François de Sales au XVIe siècle. L'éléphant est vertueux. L'éléphant aime d'amour tendre l'éléphante, mais il ne s'apparie à elle que tous les 3 ans. Ça lui suffit. Et aussitôt, après l'acte, bref, il se purifie longuement. Les stoïciens disaient que la limitation des plaisirs de la chair, eh ben c'était la meilleure méthode. C'est pas une invention du christianisme. Foucault suppose même que le christianisme l'a défendu pour mieux s'intégrer dans la Rome impériale. Philippe Chevalier a fait sa thèse sur Foucault et le christianisme.
Foucault n'avait aucun problème avec le christianisme. Dès ses premiers travaux, il se méfie beaucoup des grandes généralités historiques qui sont des pièges pour les historiens et qui sont surtout des pièges pour les historiens qui sont pas sérieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que le christianisme? Le christianisme, ça n'existe pas en tant que tel. Est-ce qu'on parle du christianisme occidental, du christianisme oriental? Est-ce qu'on parle du protestantisme, du catholicisme? De quel christianisme parle-t-on?
Pardonnez-moi de parler comme les médias. Sans arrêt, on entend parler du patriarcat judéo-chrétien. Alors, quand on dit Foucault, une formule comme celle-là, c'est à exploser, quoi.
Écoutez, il y a deux manières d'écrire l'histoire. On se contente de généralités, ou on travaille de manière un peu sérieuse, et on travaille sur archives. Quand on lit les textes, on est contraint de penser autrement.
Quand on lit les textes, après la mort de Foucault, il s'était souvent dit qu'un manuscrit mystérieux d'un dernier volume de l'histoire de la sexualité existait, consacré précisément au christianisme ancien. Et en effet, il existait, et même à plus d'un exemplaire. Pierre Nora, son éditeur, en possédait un chez Gallimard, et les archives personnelles de Foucault aussi, ce qui apparut quand celles-ci passèrent à la Bibliothèque nationale de France. Foucault n'avait pu achever totalement ce volume. Il avait interdit par ailleurs la publication de posthume. Un comité d'éthique se réunit autour de Stéphane Hessel. La publication du dernier volume fut autorisée. Les aveux de la chair sont parus en 2018. Mais que disent-ils ?
France Inter. Intelligence, service.
Oui, que disent-ils ces aveux de la chair parus au grand jour très récemment? Eh bien, comme la brève composition contemporaine que vous venez d'entendre, mais sur un autre ton, ils parlent de la confession. Cette technique de soi inouïe qu'introduit le christianisme.
Je connais mal l'histoire des religions, mais il y a tout de même peu, je crois, de religions, il y en a quelques-unes. Le christianisme n'est pas le seul. Enfin, il y a tout de même peu de religions qui imposent comme une des obligations absolument fondamentales de l'existence de raconter ses fautes. Et surtout, alors ça, le christianisme est seul à imposer cette confession d'une manière aussi régulière, aussi fréquente, la confession hebdomadaire, dans les milieux catholiques, avec examen de conscience, et bien sûr, référence majeure au péché contre la chair comme le péché par excellence, c'est tout de même une espèce de dressage à ne conscience de soi qu'à travers le filtre de la sexualité, pas tout de même un dressage absolument formidable. Et je crois que le christianisme a été le seul à l'imposer à ce point. Et alors c'est là où, si vous voulez, le principe de l'aveu sexuel, de découvrir sa propre vérité dans sa sexualité, a été le noyau à partir duquel la science de la sexualité s'est développée. Finalement, le péché, il prend corps, si j'ose dire, dans la chair. Le fait que l'on soit pas tellement un corps, mais une chair, c'est cela qui marque en l'homme la trace du péché originel.
Foucault fait son délice de ce qu'il appelle les sources secondaires, la lecture des manuels, des confesseurs, des techniques des confesseurs. La confession, c'est une technique millimétrée. Mais Philippe Chevalier rappelle le titre du livre, « Les aveux » au pluriel.
Foucault n'a jamais dit que l'aveu judiciaire et l'aveu dans le confessionnal étaient la même chose. Eh bien, je crois qu'il y a peut-être trois différences importantes. La première, c'est que la confession chrétienne, elle est limitée à un rituel, un certain moment de la vie chrétienne et rien de plus. On ne passe pas sa vie dans le confessionnal. La deuxième différence très importante, c'est que la confession chrétienne, elle n'est pas bavarde. C'est-à-dire qu'il y a un danger énorme que l'aveu des péchés vous donne des idées. Et tous les curés de paroisse connaissent bien cette figure de la pénitente qui se précipite tous les matins dans le confessionnal pour confesser des péchés qu'elle n'a jamais commis.
Elle a envie de commettre.
Alors, on est quand même bien loin de l'aveu bavard qui se répondra ensuite sous d'autres systèmes de pouvoir. Et la troisième différence, c'est qu'il faut tout dire pour que tout soit effacé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fixation de l'identité du sujet à travers la confession chrétienne, puisque c'est l'inverse qui se produit. C'est pour que le sujet ne soit plus ce qu'il était auparavant, qu'on oublie tout ce qu'il a fait, que ça soit effacé, que ça soit pardonné, et que homme nouveau, qui renaît à la vie, d'une vie nouvelle, qui est la vie, qui est une vie de grâce, qui est une vie qui lui est redonnée par le Christ, eh bien, qu'il puisse repartir à zéro et tout est effacé. Donc, c'est pour ça que, il faut insister sur un point, c'est que tous les dispositifs d'aveu modernes, tels que Foucault va les travailler du côté de la prison et du savoir psychiatrique, sont des dispositifs qui visent à fixer l'identité de l'individu et à enfermer l'individu dans une certaine identité, dans un certain passé.
On devine les polémiques qui pourraient naître avec d'autres systèmes qu'évoque Philippe Chevalier, par exemple avec la psychanalyse, où il y a sédimentation de l'expérience du sujet et non pas effacement. Mais on ne va pas ouvrir ces discussions. Foucault disait qu'il avait connu assez de malentendus avec les psychiatres au temps du premier dossier, surveiller et punir.
Monsieur Lebrun, le christianisme ancien ne dessine-t-il pas aussi des styles qui lui sont propres ?
Ou qu'il transforme. Alors parmi les styles de vie, la virginité, elle est considérée comme supérieure au mariage, sans que le mariage soit un mal, ni la virginité une obligation. Foucault consacre beaucoup de pages à cette question. Le monachisme, lui, n'est pas une invention chrétienne. On doit y pratiquer la chasteté. Et c'est pas une mince affaire pour les chrétiens, parce que le gouvernement de soi reste soumis au désir qui vient de l'extérieur, à la tentation qui peut vous submerger, comme cela arrive même à un athlète de la foi, tel saint Antoine.
Ce qui caractérise l'âme chrétienne par rapport à l'âme antique, c'est que l'âme chrétienne devient le lieu d'un combat. C'est ça que le chrétien découvre au fond de son âme. Mais le combat ne s'achève jamais. C'est-à-dire que il y a aussi le diable qui habite au fond de nous-mêmes, ce qui est quelque chose sur lequel les premiers penseurs chrétiens vont vite insister. Et donc, c'est un combat pour savoir qui aura la maîtrise de nous-mêmes.
Antoine voit en face de lui trois cavaliers montés sur des onagres, vêtus de robes vertes, tenant des lys à la main et se ressemblant tous de figure. Antoine se retourne et il voit trois autres cavaliers semblables sur de pareils onagres dans la même attitude. Il recule. Un éléphant blanc caparaçonné d'un filet d'or accourt en secouant le bouquet de plumes d'autruche attaché à son frontal. Sur son dos, parmi des coussins de laine bleue, jambes croisées, paupières à demi-closes, et se balançant la tête, il y a une femme si splendidement vêtue qu'elle envoie des rayons autour d'elle. L'éléphant plie les genoux, et la reine de Saba, se laissant glisser le long de son épaule, descend sur les tapis et s'avance vers Saint-Antoine.
Il y a notre bonne volonté, mais en face, il y a le diable qui essaie d'avoir la main sur notre être, qui veut habiter en nous et nous assujettir et devenir le prince de notre royaume intérieur. Et Tertullien est l'un des premiers, et Foucault a une leçon entière au Collège de France, sur l'importance chez Tertullien, donc on est du côté fin 2e siècle, début 3e siècle, importance de cette idée de Satan qui cherche à prendre le pouvoir sur notre âme. Donc forcément, ça va être un conflit de pouvoir.
Si tu posais ton doigt sur mon épaule, ce serait comme une traînée de feu dans tes veines. La possession de la moindre place de mon corps t'emplira de joie plus véhémente que la conquête d'un empire. Avance tes lèvres.
Elle prend Saint-Antoine par les deux joues, il la repousse à bras tendus.
Ça va être une lutte, et ça va être une lutte particulièrement violente. Mais une lutte, encore une fois, il faut la lumière de toutes ces techniques et de ces actes de vérité qu'on va être amené à poser pour prendre la mesure des enjeux de cette lutte qui se passe au fond de nous-mêmes.
Préfères-tu un corps froid comme la peau des serpents, ou bien de grands yeux noirs, plus sombres que les cavernes mystiques? Regarde-les, mes yeux. Toutes celles que tu as rencontrées depuis la fille des carrefours chantant sous sa lanterne jusqu'à la patricienne effeuillant des roses du haut de sa litière, toutes les formes entrevues, toutes les imaginations de ton désir, demande-les.
Il faut que dans la construction esthétique de soi qu'il imaginait, les techniques de soi soient fortes pour ne pas être entraînées par les mécanismes involontaires. Ce dont Foucault rêvait, au fond, c'était d'une vie qui aurait été déliée de ses poids.
Mais nous sommes bien en peine aujourd'hui, je pense, d'inventer ou de développer des formes de vie aussi cohérentes, aussi positives, aussi fortes que celles que Foucault va trouver du côté à la fois de la philosophie antique comme du christianisme des premiers siècles. Je pense que l'Antiquité pour Foucault est d'abord le lieu d'invention de formes de vie extrêmement extrêmement fortes, extrêmement cohérentes, extrêmement qui sont quand même une forme d'idéal qui vient s'opposer à des vies sans but, sans fin, sans pour prendre un terme qu'il emploie quand même pour la philosophie antique, sans beauté.
J'ai l'intuition que la volonté de savoir, l'usage des plaisirs, le souci de soi, les aveux de la chair, ça va peut-être retenir davantage l'attention aujourd'hui, alors qu'au moment de la sortie, ça n'a pas eu du tout l'écho qu'a eu l'histoire de la folie ou surveiller et punir.
C'est possible que l'histoire de la sexualité pose la question de notre morale aujourd'hui. C'est-à-dire, quelle morale, quel principe de vie, selon quelles règles voulons-nous vivre et quelle forme voulons-nous donner à notre vie. C'est-à-dire qu'on a parfois, on a tendance à nous imaginer que la sexualité est l'aspect, je dirais, le plus naturel, mais au sens naturaliste, le plus naturel de notre existence, parce que c'est cet aspect-là qui semble nous raccrocher à un corps, à la réalité physique, alors même que Foucault va nous dire, non mais attendez, la sexualité est une activité physique, elle est aussi une activité mentale, mais la question, c'est comment on se rapporte à elle. Nous sommes des sujets pensants. Comment nous traitons de cette question-là? Comment nous nous soucions de notre sexualité? Avec quel terme?
Je dirais qu'on n'est même plus dans les dispositifs de sexualité décrits par Foucault. Hein, on n'est plus exactement là. On est déjà dans un endroit un peu différent. Et en fait, ce qui compte, c'est de construire sa propre sexualité comme une performance. C'est d'être bon. Et justement, pour cela, toute la domination des pornos et un certain discours à la fois, je dirais, médical, peut-être aussi, et psychologique, une psychologie facile du bonheur, on leur part de responsabilité, entre guillemets. Et peut-être les asexuels veulent justement, c'est une manière de combattre ça et de dire, on n'a pas forcément besoin d'être hypersexualisé pour être heureux, pour vivre des bonnes vies. Enfin, on peut se soustraire à ça, on peut se soustraire à cette imposition de l'hypersexualisation qui, au fond, nous obsède de partout, des médias, de la publicité, d'un certain discours médico-psychologique, etc.
Beaucoup de notre vérité, disait Foucault, se joue dans la sexualité. Et il ajoutait aussi, je crois trop à la vérité pour ne pas supposer qu'il y ait différentes vérités et différentes façons de la dire. L'effet Foucault n'est pas prêt de finir, on sait qu'il est lu, commenté dans beaucoup de pays, notamment dans ceux où il a enseigné, le Japon, l'Italie, le Canada, les États-Unis évidemment, et puis à Paris, repose 100 boîtes d'archives Foucault à la BNF. Repose, non, parce qu'elles sont en cours de traitement et de classement, grâce notamment à Arianna Sforzini et à Philippe Chevalier qui ont été nos interlocuteurs. Les lectures Pierre Lascoum, la prise de son Yann Frécy, à la maison de Radio France à la technique Philippe Thibault, les agents d'intelligence service Frédéric Martin, Franck Olivard, la réalisation Audrey Ripouille.